Les bonbons. Ah, les bonbons, cette chose qui donne l'eau à la bouche. Sauf pour moi, car je déteste les bonbons. Ne me huez pas, s'il vous plaît. Si je vous demande votre péché mignon, vous allez tous me dire, c'est le Nutella. Mais non, sans les bonbons, tu te suis ou non? Non. Ok. Mais vous le savez tous que c'est chimique à mort. Même si j'ai très rarement vu quelqu'un regarder cette composition. Il y a juste les chimistes qui comprennent. Mais nous allons pas nous attarder à la composition, pour cela regardez Médecine Abdullah, car nous allons nous attarder dans cette rubrique à l'histoire. Une grande histoire. Mais pour qu'on ne nous éparpillons pas dans ce sujet, nous allons diviser cette histoire en 3 chapitres. Et commençons donc par le chapitre 1, ce qui est logique. Donc chapitre 1, avant l'an 0. Il y a longtemps, très longtemps, en moins 600, les Perses avaient découvert la canne à sucre. Ils l'appelaient roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles. C'était très long. Mais comme ils voulaient que cela devienne Perse et que Perse, eh bien la guerre chez eux. Ils étaient égoïstes. Jusqu'à ce que Alexandre le Petit, je veux dire le Grand, désolé, découvre ce secret au 4e siècle avant Jésus-Christ, ou j'y sais. Mais comme tout le monde sait qu'Alexandre est un Sumérien, mais non, un Égyptien, mais non, un Arsacien, mais encore moins,
un Romain,
mais non, c'est un Macédonien. Et donc, comme c'était un Macédonien, n'est-ce pas, hein, il a amené avec lui cette culture où?
En France.
Mais non, en Alsace, mais encore moins,
en Asie,
mais non, autour du bassin méditerranéen. Donc maintenant, passons au chapitre 2, du 12e siècle au 14e siècle. Les croisés au 12e siècle font découvrir au monde, grâce aux Arabes, la... je sais pas. Ok, vous faites quoi pendant ma rubrique? Moi, je m'ouvre des fips. Et toi?
Eh ben moi, je mange des... Je prends des bonbons.
Vous posez tout et vous vous concentrez, ok? Donc, les croisés ont découvert la canne à sucre. À partir du 14e siècle, il y a eu une évolution considérable dans la confiserie. Tandis que les fruits confits se développent, les dragées et les nougats apparaissent.
J'aime bien les nougats.
Chapitre 3, du 17e siècle à aujourd'hui. Au XVIIe siècle naissent les pastilles et les marrons glacés. Mais j'aime pas les marrons glacés. Mais au XIXe siècle, une évolution sans précédent fait évoluer considérablement la confiserie. Là, non. Vous vous taisez. Vous avez dit assez de bêtises pour l'instant.
Mais je voulais dire la betterave.
Enfin, vous avez juste.
Ouais, enfin j'ai juste.
Et depuis, les bonbons comme ceux que vous mangez ont vu le jour. C'était long. Donc, allez, à la prochaine. Juste pour technologique, s'il n'y en aura pas pour cause technique. La cause étant que j'ai trouvé aucun sujet que je peux faire à la radio. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le prochain numéro, nous allons fabriquer une console portable. Aussi, dans le prochain Les Histoires Extraordinaires d'Abdullah, nous allons étudier une histoire plus que trouble et plus que sombre. L'histoire du Coca-Cola. Il y aura des nazis. Il y aura des brisages d'enfance et il y aura aussi de la drogue. C'était ça. Et à la prochaine.
Bonjour les élèves, aujourd'hui leçon en radio sur la transformation de Fourier. Donc, on analyse la transformation de Fourier, une extension pour les fonctions non périodiques du développement en série de Fourier des fonctions périodiques. La transformation de Fourier associe à une fonction intégrable, définie sur l'ensemble des nombres réels ou celui des nombres complexes. Une fonction appelée transformée de Fourier, dont la variable indépendante peut s'interpréter en physique comme la fréquence ou la pulsation. La transformée de Fourier s'exprime comme note infinie des fonctions trigonométriques de toute fréquence. Une telle sommation se présente sous forme d'intégrale. L'analyse, non standard, permet de la présenter sous forme d'une série et justifie le point de vue intuitif. Série et transformation de Fourier constituent les deux outils de base de l'analyse harmonique. Lorsqu'une fonction représente un phénomène physique, comme l'état du champ électromagnétique ou du champ acoustique en un point, on l'appelle signal et sa transformée de Fourier s'appelle son spectre. Des questions ?
Oui, monsieur, s'il vous plaît.
Oui ?
On vient de commencer, monsieur. Vous avez rien de plus simple, s'il vous plaît.
Ah, vous venez de commencer. Alors, commençons donc, non pas avec la transformation de Fourier, ce qui est bien dommage, mais avec le sucre et ses effets néfastes. Donc, le sucre n'est pas bon pour la santé. Au revoir.
Ah, mais j'ai oublié. Il faut que j'explique. Hein. Désolé.
Donc, j'aime dire donc... Cette phrase n'a aucun sens avec le reste, mais cela suffit pour marquer le début. Car vous le savez tous que le jingle ne veut rien dire, car ce n'est que de la musique. C'était une transition. Le sucre ou saccharose, dont la formule chimique est C12H22O11, ou pour faire plus simple, il y a 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène.
Ah, c'est plus simple maintenant. Et il a une masse molaire de 342,30 grammes mol.
Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, vous allez l'apprendre en seconde. Bon, on a fini la présentation, maintenant attaquons-nous aux effets néfastes. Donc, tout d'abord, vous le savez peut-être, que notre consommation de sucre a triplé en 50 ans et qu'il y a du sucre pratiquement partout. Mais commençons donc par une liste qui comporte une chose avec des explications. Donc, la seule chose qu'il y a dans cette liste, c'est le diabète. Le diabète est un excès de glucose dans le sang. Il y a deux types de diabète. Le type 1, ou DID, pour diabète insulodépendant, se forme souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. Les symptômes sont une soif intense, une envie répétée d'aller au petit coin et un amaigrissement rapide. La conséquence de ce diabète est la disparition de cellules bêta dans le pancréas, ce qui entraîne une carence totale d'insuline. L'insuline est produite par ces mêmes cellules pour réduire le taux de sucre dans le sang. Donc faites attention, car ce type de diabète peut vous atteindre très facilement en prenant trop de sucre. Le type 2, presque la même chose que le précédent, sauf que soit le pancréas ne fabrique pas assez d'insuline, soit il agit très mal. Mon pronostic, mangez très peu de bonbons et d'autres sucreries. Mangez-en occasionnellement. Pas le matin dans le bus, hein? Les personnes dont je parle ont dû comprendre. Hein, les bleus, ça et moi. Oui, les bleus, ça et moi. Donc, le docteur Brancard rappelle dans un rapport de l'OMS. OMS étant l'Organisation Mondiale de la Santé, rédigée par lui-même. Nous avons des preuves sérieuses qui démontrent que contenir à moins de 10% la consommation quotidienne de sucre réduit le risque de surpoids, d'obésité et de caries dentaires. Il affirmait cela il y a un an. Et le docteur Francesco Branca, directeur du département de la nutrition pour la santé et le développement de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour décrire le sucre, certains experts parlent de calories inutiles, d'autres de calories vides. Le sucre n'est pas nécessaire du point de vue nutritionnel. C'est un aliment toxique et addictif. En parlant d'addiction, le saviez-vous que le sucre est aussi addictif que la cocaïne ? Mais attendez, la cocaïne est une poudre blanche. Le sucre aussi. Oh mon Dieu !
Mais, il n'y a pas de trafic de sucre. Ce qui est bien dommage. C'était une blague morbide. Bon, maintenant, nous allons travailler sur une étude qui a été publiée par Serge Ahmed, le directeur du CNRS, Université de Bordeaux. Et CNRS étant Centre National de la Recherche. Et le S, je ne me rappelle plus c'est quoi. En 2007, il dit « Les données qui permettraient de soutenir cette affirmation n'existent pas encore. » Les certitudes qu'on a sont qu'il y a bien des personnes qui souffrent d'addiction à la nourriture. Les études réalisées dans le monde entier montrent que dans une population de poids normal, 10% représentent ce genre d'addiction. Bon, le cours est fini. À la prochaine les élèves, c'était Dr Abdullah. Et à la prochaine fois pour un cours sur le tableau de Mendeleïev. Au revoir. Et si l'URSS gagnait la guerre froide? Ok, je n'ai pas choisi le thème le plus simple hein, pour commencer le premier épisode de ma rubrique. Hein. Mais bon, commençons. Et commençons d'abord par la définition du mot Uchronie, puisque comme vous le savez sûrement, cette rubrique s'appelle Uchronie Abdullah. Et Uchronie s'écrit U-C-H, qu'on prononce K, comme dans chorale. Donc U-C-H-R. O, N, I et E. Uchronie est un nom féminin. Sa définition est utopie appliquée à l'histoire. Histoire refaite logiquement telle qu'elle aurait pu être. Le trésor de la langue française informatisée donne une définition plus large, adoptée notamment par le critique Raymond Trousson. Et c'est qui Raymond Trousson? Eh ben, c'est pas moi en tout cas. Époque fictive, vocation imaginaire dans le temps. Dans cette uchronie, nous allons nous concentrer sur un des événements majeurs du XXe siècle, la guerre froide. Mais avant de continuer, nous allons d'abord répondre aux personnes qui se disent « La guerre froide, je suis pas troisième, moi. » Et « U, R, S, S, mais c'est Kézako. » Eh bien, premièrement, la guerre froide est non une guerre avec des tanks et tout le cirque, mais une guerre idéologique. Qui se fait opposer les USA, The United States of America, je vous répète, The United States of America, et l'URSS, qui est Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Je répète une deuxième fois, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ou ancien nom de la Russie. Mais vous êtes d'accord avec moi que ancien nom de la Russie, c'est moins mieux que Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Alors là, si vous n'avez pas retenu le nom... Vous avez des problèmes de mémoire. Et qui dura de 1946 à 1991. Ce qui fait quand même un sacré bout de temps. Ce qui fait plus d'un demi-siècle quand même. Enfin moins d'un demi-siècle plutôt. Historiquement, ce sont les USA qui l'ont gagné. Et l'URSS s'est disloqué pour faire plusieurs d'autres états. Et tous ces états sont devenus capitalistes. Mais, camarades qui m'écoutent. En cette uchronie, l'URSS va gagner la guerre froide et les USA vont devenir communistes. Mais il faut un argument. Bon, j'ai un super argument. Il y a eu un crack produit par l'URSS avec l'aide de la Chine communiste, même s'ils étaient ennemis à la fin de cette guerre froide. Même s'ils étaient ennemis, donc. Mais il y a eu un village d'irréductibles capitalistes qui résiste encore et toujours aux communistes. Et puis on va la faire simple, on va dire un bon matin, il y a eu un ouragan communiste qui a balayé les USA et comme ça ils sont devenus communistes. Hein, c'est un argument possible. Hein, j'ai juste camarade. Non. On va au goulag alors, si tu dis non. Donc, après cette victoire très rapide, les USA sont devenus l'Union des camarades et des nations communistes de l'Ouest, ou UCNCO, qui comprenait les USA, à nouveau The United States of America, le Mexique, le Canada et toute l'Europe de l'Ouest. Et quand je parle d'Europe de l'Ouest, c'est tout ce qu'il y a après l'Allemagne. Puisque tout ce qu'il y avait après, tout ce qui était après l'Allemagne était capitaliste, tout ce qui était avant l'Allemagne, c'est-à-dire à l'Est, c'était communiste. Donc, ils se sont unis car avec ce grand krach boursier, l'économie ne marchait plus. Et ils ont dû se tourner vers le capitalisme, vers le communisme, plutôt, désolé. Mais vous allez me dire, mais c'est génial, ils vont arrêter de se battre, ils vont construire un monde meilleur sur le communisme. Eh ben, non. Car l'UCNCO ne va pas se mettre du jour au lendemain à parler russe et à porter des chapkas. Donc l'UCNCO va déclarer la guerre à l'URSS. Et vous allez sûrement me dire, mais pourquoi sont tous les deux des communistes? Eh ben, je vais vous répondre tout simplement que un communisme de l'Ouest ne peut pas être la même chose qu'un communiste de l'Est. C'est pas la même culture. À l'Ouest, c'est bien plus libéral, alors qu'à l'Est, c'est bien moins libéral. Donc, à l'UCNCO, il y aura plutôt un communisme très libéral. Alors qu'en URSS, le communisme, comme vous savez, il n'est pas très libéral. Mais vous vous souvenez avant, quand je disais que la guerre froide était une guerre idéologique? Ah ouais, moi je me rappelle. Eh ben très bien, si tu te rappelles. Eh bien, cette fois, ce fut une vraie guerre, que dis-je, une guerre nucléaire. Car on a l'UCNCO, ils ont la bombe nucléaire. URSS, bombe nucléaire. Ça sent quand même la petite interaction. Et donc voilà, l'Uchronie terminée. Mais n'oubliez pas, c'est une Uchronie que j'ai inventée. À vous de faire à la vôtre. Abdullah Witbier.